Voilà, telle famille, telle église. Ça se répercute sur l'église. Et c'est formidable. Donc voilà, que la faveur de Dieu soit sur nous tous cette année. Que des bonnes choses se passent vraiment. Et nous avons des inspirations, nous avons le désir, nous avons... Voilà, toute ma vie, j'ai toujours aspiré au plus. Dieu est tellement grand, Dieu est infini. Il est tout-puissant, omniprésent. Et je ne connais pas Dieu vraiment dans la perfection, mais je connais au moins ce que j'ai besoin pour être sauvé. Voilà. Et il est tellement grand et on le découvre de plus en plus. Et un jour, et un moment viendra où toi et moi, nous nous rencontrons ensemble, on vivra dans l'éternité. Et l'éternité, tu prépares, toi et moi, nous préparons aujourd'hui, au présent. Amen. Voilà, au présent, nous préparons l'éternité. L'éternité. Et que Dieu nous bénisse vraiment. Voilà, c'est mon désir. Cette nouvelle année, c'est une belle chose. De nouvelles perspectives. Alexis nous a juste interpellé en disant cette année, je ne sais pas si c'est toute l'année, mais au moins le fil conducteur, ce sera l'église productive, l'église en action, l'église qui produit, qui porte le fruit, qui grandit et qui croit. Amen. Voilà, c'est ça, on va vivre. Donc le fil conducteur sera de cette façon-là pendant cette année. Ce matin, j'aimerais parler de l'Église, justement. Mon sujet, c'est Jésus construit son Église. On va toucher quelques points très importants. Et à la fin, nous allons... voilà, je vous prépare à midi. Il y a deuxième église qui viendra ici, qui a l'oasis, les enfants, tout l'encadrement, parce que j'aimerais vraiment honorer tous ceux qui travaillent dans les coulisses, et puis on ne les voit peut-être pas là, vous me voyez ici, mais je ne suis pas plus grand que ceux qui travaillent là-bas. Maintenant, avec les enfants, vous allez voir un bon groupe qui viendra ici, et nous voulons vraiment honorer toutes les personnes qui sont engagées, qui sont dans les services partout et aussi qui travaillent parmi les enfants. Alors, Jésus construit son Église. Alors, quand on parle de l'Église, une fois de temps en temps, je répète ces choses-là, parce que souvent, quand on parle avec les uns et les autres, enfin, avec des gens, et puis facilement, on dit, ben moi, dimanche, je vais à l'Église. Mais les gens qui ne connaissent pas cette expression de telle façon que nous, de la même façon que nous, pour eux, l'église, c'est là-bas dans le village, c'est là-bas au centre de l'île, la cathédrale, etc. C'est les bâtiments. Et souvent je ne suis pas du tout critique, ce sont des choses réelles. Et souvent, vous allez dimanche dans ces cathédrales, dans ces églises, des beaux bâtiments magnifiques, voilà. Dans ma ville, dans mon quartier, il y a une église. C'est fermé. Voilà, les voisins veulent que l'église reste, etc. Parce que c'est une histoire, c'est traditionnel, etc. Mais le dimanche, il n'y a rien. C'est juste pour les enterrements et peut-être quelques mariages, parce que même les mariages, aujourd'hui, on ne les en manque pas vraiment. Des vrais mariages, d'accord? Mais l'église pour Jésus, l'église pour Dieu... C'est différent que juste le bâtiment que vous voyez là, ici à 200-300 mètres d'ici, et puis d'autres églises dans la ville, dans nos villages. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Le mot du grec, l'église, c'est un rassemblement. Ce sont les gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont rassemblés ensemble, d'accord, et qui sont habités, parce que l'église veut dire une habitation. L'église est habitée par qui ? L'Église est habitée par Dieu. Et nous sommes habités par Dieu. Nous formons un temple de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Et c'est tellement important. Oui, merci pour les bâtiments. Oui, merci pour les cathédrales. J'ai même pensé à, dans un cas de chez un bâtiment, une église qui est vide, d'aller voir les curés pour qu'ils puissent nous donner, voilà, mettre à notre disposition pour faire quelques actions dans l'année, etc. Pourquoi pas? Ça se fait déjà. Valenciennes, dans certaines villes, voilà, c'est les évangéliques qui sont là dans les bâtiments. À l'île de la Réunion, plusieurs églises catholiques sont occupées par les évangéliques parce que on se présente comme des protestants, et puis aujourd'hui, voilà, on n'est pas là pour construire les murailles entre nous, mais on se respecte avec beaucoup de respect. Amen. Voilà. Donc l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce sont tous les chrétiens, d'accord? Et l'Église n'est pas le bâtiment. Je me répète, l'Église, ce n'est pas une religion, parce que souvent, on nous classe comme ça dans le monde, voilà, l'administration, etc., etc. Donc, on parle d'une religion, mais aujourd'hui, nous parlons d'une famille de Dieu, d'accord, de personnes sauvées, nées de nouveau, transformées, changées, voilà, qui vivent avec vraiment un espoir pour éternel, d'accord. Donc l'Église est une institution instituée ou construite, institution divine. C'est pas l'Église ne fait pas partie, n'est pas la propriété d'un prophète, voilà, d'un leader, de quelqu'un qui s'est proclamé comme le sauveur ou quoi que ce soit, mais l'Église c'est une institution divine construite par Jésus lui-même. Et c'est pourquoi on va tout de suite prendre le texte dans Matthieu, le chapitre 16, et le verset 13 jusqu'à 18. Christiane, est-ce que tu peux nous lire ce verset? Voilà, suivez bien, même si pour les plus anciens, vous connaissez bien ce verset. Moi-même, toute la vie, j'ai prêché beaucoup, beaucoup de fois, mais chaque fois, le matin, quand je lis ce verset-là, ça me touche, ça me fortifie, ça me fait quelque chose parce que c'est tellement important.
Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et d'après vous, qui suis-je ? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. »
Voilà, donc, vous avez entendu, on parle d'une révélation. Pierre, il a reçu une révélation. Ce n'est pas quelque chose juste intellectuel, comme une histoire. Vous apprenez l'histoire de Gaulle. Vous connaissez le de Gaulle ou d'autres hommes qui ont marqué l'histoire, etc. Mais ici, ce n'est pas juste une histoire. Oui, ça fait partie de l'histoire pour beaucoup de personnes. Mais pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, voilà, c'est une révélation. Pierre a reçu une révélation. Une révélation que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus est venu sauver l'humanité. Donc c'est tellement profond. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, une révélation, il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose de différent qui se passe en nous parce que c'est une révélation surnaturelle que nous recevons. Et puis là, on comprend qu'il faut donner notre vie à Jésus. Aujourd'hui, nous préparons l'éternité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tellement fort. Et puis ensuite, deuxième expression. Ce verset, si vous pouvez encore remettre au plage, quand Jésus dit « J'ai construirai mon église. » « J'ai construirai mon église. » C'est quel verset, là?
Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église.
Donc le rocher, ça veut dire qui? Est-ce que c'est Pierre ou Jésus? C'est Jésus. C'est une confession de Pierre, il a exprimé, voilà. C'est pas sur Pierre, comme on prêche ça dans beaucoup d'autres religions, mais sur cette confession de Pierre, tu es le fils de Dieu. Donc l'église, aujourd'hui, le rocher, d'accord, de cette église qui est construite, voilà, tu es... Nous sommes tous membres de cette Église. Nous nous construisons sur le rocher, c'est-à-dire sur la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est tellement profond. C'est fort, hein? Qu'est-ce que vous pensez? C'est tellement bon. Et puis ensuite?
Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle.
J'ai construit mon Église. Où est cette expression?
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église.
Voilà. Donc Jésus, lui-même, il nous dit, j'ai construirai mon Église. Il a été cherché. Il a été cherché d'autres personnes, dans d'autres pays, dans le monde entier, au travers de tout le siècle. Jésus réunit les personnes qui ont reçu cette révélation puissante, réunit ces gens-là pour que ces personnes-là deviennent l'Église de Dieu. Amen. Donc, c'est tellement important, vous voyez. Donc, Jésus disait, je répète, j'ai bâtirai mon Église, donc c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui a construit l'Église, et il nous a accordé cette faveur de faire partie de cette Église-là, d'être habité par Dieu, comme je vous ai déjà dit. Donc, il est le constructeur. Il est les propriétaires de son Église. D'accord? Jésus, donc, construit son Église avec des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Et l'Évangile de Jean, chapitre 4, le verset 21-24, Christian, tu peux nous lire encore, nous parle de vrais adorateurs.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, mais il a été trop vite là. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Voilà, vous connaissez cette histoire. Jésus qui rencontre la Samaritaine, il parle avec une femme, un juif qui parlait avec la Samaritaine qui n'était pas juif. À cette époque-là, c'était pratiquement interdit, c'était pas bien, mais Jésus est venu pour bouleverser les habitudes, les religions, les traditions. Il est venu pour sauver, peu importe qui, les Samaritaines, Samaritains, ou les Juifs, ou pas les Juifs, les Grecs, les Russes, les Polonais, les Français, les Gaulois, les Anglais. Voilà, il est venu sauver. Voilà, tous ceux qui avaient besoin d'être sauvés, qui cherchent les saluts. Donc, vous voyez, c'est tellement important. Il parle avec cette dame samaritaine. Et puis, cette samaritaine, elle avait cinq maris, finalement, enfin, cinq hommes. Dans sa vie, Jésus ne l'a pas condamné. Il lui a juste discuté, parlé, il lui a fait comprendre que tu as besoin aussi d'être sauvé. Et puis voilà, si tu bois de l'eau que je te le donne, voilà, tu seras béni, etc. Bon, c'est du passé. Alors donc Jésus dit à cette dame samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, vous adorez les idoles sous les montagnes, d'autres dieux comme aujourd'hui. Certains adorent Marie, nous la respectons beaucoup. Mais on ne peut pas l'adorer comme on adore Dieu. C'est une femme bénie voilà, qui a enfanté Jésus, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas adorer, Marie, par exemple, ou d'autres dieux, à prophètes, etc. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez. Vous ne savez pas qui sont ces personnes-là, quelle est leur importance, mais nous adorons, donc Jésus, vous voyez, Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Ce que nous connaissons. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce que nous pouvons dire, nous adorons ce que nous connaissons, ce que nous avons connu, reçu par la puissance de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit. C'est un miracle qui s'est opéré dans nos vies. Amen. Je suis toujours heureux, je suis tellement content quand je parle de ça. Mais je n'ai pas mérité, mais pourquoi? Pourquoi moi, mais pas celui qui est à côté de moi? Vous voyez? Mais on ne sait pas, c'est la grâce. Et puis, j'ai dit, mais chaque matin, je dis, oh, merci Seigneur, je suis sauvé. C'est une faveur. Voilà. Donc, j'ai compris, et je le sais, et je suis convaincu, voilà, que ce que j'adore Dieu, je le connais. J'ai connu son amour, sa miséricorde, sa grâce. Amen. C'est tellement puissant. Donc, voilà, je suis devenu un adorateur. Maintenant, un vrai adorateur de la vérité. Bon, je ne vais pas développer ça. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Les vrais adorateurs adorent le Père, Dieu le Père, en esprit et en vérité. Donc, étant donné que nous avons reçu une révélation par le Saint-Esprit, d'accord ? Une révélation surnaturelle. Donc, nous adorons Dieu en esprit. C'est une chose intellectuelle. Oui, je suis là, je vous regarde, vous êtes venus ici, on réfléchit, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais la révélation, c'est encore plus que juste l'intelligence. Nous voulons vivre, cette profondeur en Dieu. Donc, nous adorons Dieu en esprit, celui qui nous a convaincus, qui nous a révélés, etc. Alors, qui sont les vrais adorateurs? J'avais ma grand-mère, qui était vraiment catholique, fervente à l'époque. Elle allait deux fois par dimanche à l'église. Elle s'agenouillait là. Et en plus, dans la semaine, et voilà, elle adorait les saints, elle adorait Marie, mais elle adorait aussi Dieu. Et donc, nous, on savait qu'elle avait besoin, pas grand-chose, elle avait besoin le salut, elle avait besoin la grâce. Jésus, entre Dieu et nous, c'est il y a donc Jésus. Donc, elle avait l'impression qu'elle allait quelque part adorer Dieu en priant Saint Antoine, Saint Pierre, Saint Paul. Vous voyez ce que je veux dire? Elle allait adorer Dieu à sa façon-là. Et puis mon père, il était toujours un peu triste pour elle. Et puis souvent, ça se discutait comme ça entre le ministère. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que Dieu va leur accorder quand même la grâce? Parce qu'il croyait au Dieu, croyait au Jésus, mais il y avait tout ça en plus. Pour nous, c'est clair, mais il y aura beaucoup de surprises, ça je vous le dis. Hello? Il y aura beaucoup de surprises, ce n'est pas juste le nom. Donc vous voyez qui sont les vrais adorateurs. Alors, les vrais adorateurs, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus comme le vrai sauveur, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui nous fait passer de la mort à la vie, voilà, et celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ces personnes-là qui deviennent le vrai adorateur. C'est aussi un style de vie, je vous ai déjà dit il y a un moment. Alors, tous ceux qui adorent Dieu, en vérité et en esprit. Pourquoi ils adorent Dieu en vérité et en esprit? C'est parce qu'ils ont reçu la révélation par le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous devenons de vrais adorateurs, nous construisons l'Église avec Jésus. On devient un vrai adorateur, transformé, changé, je me répète, hein, sauvé, etc., etc., etc. Ce n'est pas celui qui veut juste lever la main, « Oh, merci Seigneur ». Non, non, c'est plus que ça. Ça fait partie, oui, d'une expression. Le silence, le cri, la joie, sauter, danser, ce sont des expressions, on est bien d'accord. Mais il y a toute une vie consacrée, sanctifiée. Et ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, nous construisons donc l'Église avec Jésus. Nous faisons la collaboration quelque part. On travaille ensemble. Moi, j'aime bien quand Jésus travaille avec moi. Je vous ai déjà dit à l'hôpital ça. Souvent, certaines choses me reviennent maintenant parce que comme j'étais tellement dans la faiblesse, et puis je pense à ces moments-là où je n'avais pas de force de prier. J'étais là et voilà, je vous ai déjà un peu parlé de ça. Et puis chaque fois quand les infirmières venaient, c'est dommage que tu n'étais pas là dans cet hôpital-là, tu vois. Voilà, j'ai dit un mot parce qu'il fallait dire ou répondre. Et souvent j'ai dit, vous êtes vraiment gentil. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir aidé. Juste de mots comme ça, avec. J'essayais juste de montrer un petit sourire, j'avais pas de force même. Et puis après, il y en a une qui revient, je vous ai dit, hein. Monsieur a quelque chose de spécial dans cette chambre, mais vous êtes différent que les autres, mais il y a quelque chose en vous. Mais j'ai rien dit parce que je ne pouvais pas. J'ai juste dit deux, trois mots par-ci, par-là. Et puis voilà, les choses ont passé comme ça. Et puis ensuite, une deuxième qui revient. Mais monsieur, il y a quelque chose en vous. Et vous êtes différent. Quand on entre dans cette chambre, on se sent bien. Je n'ai pas pris ça au premier degré. Je n'avais pas de force. Et puis un peu plus tard, j'ai dit, « Seigneur, oh, tu étais là. » Mon adoration, c'était dans le silence, dans mes souffrances. Ah. Et d'autres autour de moi qui priaient, qui luttaient contre moi, avec ma famille. Ah, c'était beau à voir. Et encore maintenant, j'essaye de comprendre beaucoup de choses comme ça. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne voulais pas vraiment revenir pour moi-même parce que j'aurais été mieux là-bas. Mais je suis tellement heureux parce que je suis là pour Christiane, pour Alexis, pour toute la famille, pour mes petits-enfants qui criaient. Ah, on ne veut pas que pape meure. J'y apprends tout ça après. Et c'est formidable. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que j'ai reçu une transformation, une révélation par le Saint-Esprit. Et même dans les silences, dans les souffrances, ah ben Dieu était là. La pièce était remplie de la présence de Dieu. J'aime bien parler de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on est devant la présence de Dieu? C'est que la grâce. Amen. Tu étais là vendredi soir? C'est toi? Non? Je me trompe peut-être? Toi. Non? Non. J'ai vu quelqu'un d'autre. Oui. Donc, voilà. Nous construisons donc l'Église avec Jésus, nous sommes ses collaborateurs, nous accueillons, c'est l'accueil, l'Église est pour accueillir ceux qui ont besoin de Jésus. Amen. L'Église est là pour apporter la libération. Il y a tellement de problèmes dans au niveau de la notre âme, les gens sont liés avec des principes, avec des raisonnements. Il y a la haine, il y a le non-pardon et tout ça. Tout ça, c'est invisible. Et ce sont des forteresses, des montagnes. Alors voilà, l'Église est là pour apporter le soutien, la libération pour toutes ces personnes qui ont besoin. Donc la question de la délivrance, on parle beaucoup de la guérison. Ben, vous voyez, j'aurais préféré d'être guéri, moi, sans passer par l'hôpital. Mais il fallait passer par là. Il y a aussi abus, j'ai aussi appris des choses. Mais là, Dieu était là avec les médecins. Il s'est servi de médecin. Il s'est servi de ma chirurgienne qui m'a déjà opéré il y a 7 ans. Et j'ai pu vivre voilà, de bonnes choses. Et je suis toujours avec vous. Mais avant tout, j'étais avec Christian. Donc, si la louange et l'adoration sont bien faites, quand je dis bien faites, essayez de comprendre, voilà, il y a la sanctification, il y a l'engagement, il y a le désir, il y a la soif, etc., etc. Si tout ça, parce que la louange, voilà, Seigneur, merci, la louange, nous conduit vers l'adoration, quelque chose de plus. C'est pour ça, quelquefois, quand j'entends les uns et les autres qui disent « Ah, Seigneur, j'aimerais avoir quelque chose de plus. » Il y a toujours plus. Mais surtout, la louange nous conduit vers l'adoration. Et si, je répète, la louange et l'adoration sont bien faites, cela déclenche une présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la manifestation. Hein, ça déclenche cette louange, la vraie adoration, une vraie relation avec Dieu. Ça déclenche la manifestation de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu détruit, fait reculer toute puissance des ténèbres. Amen. Est-ce que vous croyez tous vos raisonnements, vos péchés, voilà, vos imperfections? S'il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, moi j'ai grandi dans des églises clandestines. Et dans les églises clandestines, vous n'avez aucune structure. Là où il y a la persécution. J'étais gamin quand ça s'est terminé un petit peu. Mon père était en prison. Et puis, quelquefois, j'observais tout ça, parce qu'avant, j'avais 5, 6, 7 ans, voilà, ces années-là où j'étais marqué par tout ça, ça me poursuit. Mon père était en prison, et pourtant, ils sont croyants, tout ça. Ça me posait beaucoup de questions. Mais ces gens comptaient tellement sur Dieu qu'un prédicateur lui a dit « Gloire à Dieu ». Je vous donne un exemple parmi les autres. Ah ben, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu se manifestait sur tout notre territoire. Il y avait souvent 30, 40, 50, il y avait les gens serrés comme ça, 60, 70 personnes, quelquefois même 100 personnes encore dans les couloirs là-bas, voilà. C'était plein. Il y avait une présence de Dieu, les gens ont été touchés. Il y a des gens qui criaient parce que c'était tellement fort. Il y a des gens qui hurlaient parce que le mauvais, l'impureté, quelquefois les péchés sortaient par une expression. D'autres étaient dans la joie, donc ils ont été touchés. Quelquefois, ça sautait. Combien j'aimerais vivre ces moments encore aujourd'hui. Mais c'est différent. C'est différent, c'est comme ça, je suis heureux de vivre ce que nous vivons ensemble, différemment. Donc, il y avait la présence de Dieu, les gens étaient touchés. Mais je me souviens, quelquefois, entre nous les jeunes, bon, vous savez, on a fait quelques bêtises à droite, à gauche, voilà, et puis on allait à la réunion, au culte, voilà, et puis on s'est dit, oh là là, pas trop près de cet homme-là, parce que c'est un prophète, là, il va me dévoiler ma vie. pas à côté de lui, là, parce que, et pourtant c'était des anges, des gens gentils, avec beaucoup d'amour. Mais voilà, il lisait, il te regardait et il lisait. Il savait ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as fait, etc. Ah ben, ils avaient besoin beaucoup de sagesse pour ne pas frustrer les gens aussi. Donc, c'est des choses remarquables quand il y a la présence de Dieu. Amen. Mais il y a la présence de Dieu avec nous, différemment. Amen. Combien de personnes qui viennent ici? Je me souviens, je répète ça souvent, mais cet homme-là, une fois, quand il est venu ici, il dit, je suis venu, mais c'est quelqu'un qui était rejeté par la famille, etc. Voilà, il sentait qu'il était sous-estimé. Et puis là, il arrive là, et quelqu'un lui donne juste une boisson. Et il m'a dit, bah, je suis là, je suis tellement touché, parce qu'il n'y a jamais... Un verre de limonade, peut-être, je ne sais pas. Vous comprenez? Il y avait, par les billets de petites choses comme ça, il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. Les gens touchent, sont touchés parce qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose parmi nous, il y a quelque chose dans cette salle. Amen, dans nos réunions. Donc vous voyez, soyez valorisant la présence de Dieu. Très bien. Donc, si y a voilà, la louange, l'adoration, déclenche une présence remarquable de Dieu. Alors, les vrais adorateurs soutiennent aussi l'aide de Dieu financièrement. Alors, vous savez, voilà, ce sont des choses pratiques, mais au moment où nous avons une structure, il faut des finances. Alors, si je vous cite, par exemple, la sécurité, tout ce qui est la sécurité, les lampes, voilà, on doit changer encore un appareil. Partout, c'est des centaines d'euros. Les travaux, des réparations au niveau de la chaudière, etc., la sécurité aussi. Tout ça, ça fait de l'argent. Voilà, le chauffage, les assurances. Tout ça, c'est des milliers et des milliers de personnes. Sans parler de soutien au ministère. Et dimanche prochain, je vais vous expliquer ce que nous avons décidé avec les anciens. Voilà, au niveau de soutien, d'investir aussi les finances dans les ministères. D'accord? Voilà. Donc, surtout, soyez aux règles dans ce domaine avec Dieu. C'est pas bon. Moi, tout ce qui m'intéresse, à la fin du mois, je demande, dites-moi combien d'argent nous avons. Je sais que chaque mois, on doit dépenser 5 000 euros, 4, 5, 6 000, ça dépend. Ah ben, si on a 3 000 euros, je vais devoir ajouter moi-même 2 000 euros. Ça s'est déjà fait comme ça, passé comme ça, même si on était béni. Donc, vous voyez, il y a tellement... Et puis, voilà, tout le matériel, tout ça, voilà, c'est pas tombé de là. Donc, je vous interpelle là, au début de l'année, pour que vous soyez en règle avec vos dîmes devant Dieu. Il y en a qui payent plus, d'autres donnent moins, c'est le repère, la dîme, etc. Mais, voilà, au moins, sachez que les vrais adorateurs, ce n'est pas juste la parole comme ça, intellectuelle, mais une conviction, une participation, un engagement. Si nous voulons, voilà, aussi que les outils matériels puissent servir pour l'agrandissement, pour la croissance de l'œuvre de Dieu, ah ben, il faut donner les finances. Et quand vous donnez les finances, ben, vous êtes bénis. Combien parmi vous, certains, vous venez me voir, d'autres non. Et c'est bien pour me dire, Antoine, Il n'y a pas longtemps, une jeune fille, là, jeune fille de Waterloo, voilà, elle est venue me voir et me dit, oh, depuis que je donne ma dîme, je suis tellement béni. Ah bon? Ben, donne-moi un peu de cette bénédiction-là. Vous comprenez? En donnant, on reçoit. Ça c'est la loi divine. C'est pas juste la parole d'un prédicateur. C'est la parole de Dieu. En donnant, on reçoit. Si nous s'aimons, ben voilà, nous allons récolter. Amen. Et on est tellement bénis. Voilà. Donc, ensuite, j'aimerais toucher encore la vision de notre Église. Voilà, donc voilà, les vrais adorateurs, nous sommes une Église, d'accord? Les adorateurs deviennent une habitation pour ensuite former d'autres adorateurs, etc. Et donc, nous avons une vision. C'est pas juste comme ça, on fait des réunions, il n'y a aucune vision, aucun but. Notre vision est claire et c'est ce que j'ai trouvé, découvert, parce qu'on ne peut pas mettre en place une vision qui n'est pas biblique. Donc voilà, tout simplement, c'est sauver, voilà, une âme, ou sauver tout simplement, former, construire. C'est ce que nous faisons, voilà. Donc, nous faisons tout pour annoncer l'Évangile. J'ai reçu un coup de fil, il y a 2 jours là, d'une certaine Kessia. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui, ce matin? Comment? Kessie, assieds-toi. Bienvenue, Kessie. Kessie, hein, elle a dit. Bon, vous avez compris, hein. Kessie. D'accord. Et puis voilà, elle me téléphone gentiment. Je vais gentiment. J'habite là et là. Et puis, je vous ai trouvé par Internet, certainement. Hein. C'est ça. Hein. Ça, tout ce qui est, Alexis, les moyens techniques actuellement, il faut aller à fond. Cette année-là, il faut progresser. Il faut vraiment progresser, Alexis. Lève-toi un peu, là. Regarde-la un petit peu. Tu vois, elle est venue grâce à quoi? Voilà, on n'a pas été chez elle. On n'a pas été chez elle pour lui dire « viens ». Il y en a d'autres comme ça qui sont venus. Hein. Tu es venu aussi grâce à l'Internet. Et puis, au plus, ils regardent les sites, ils connaissent tout, ils me connaissent. Moi, je dis « ben voilà, vous venez me voir à la fin du cœur. Oh, »« Non, c'est bon, je te connais, mais je ne t'ai jamais vu. » Ben, parce qu'ils me voient prêcher et tout ça. Ils nous connaissent avant d'aller dans une secte ou dans quelque chose qui n'est pas vrai. Ah ben, les gens, voilà, regarde, cherche. Ah, Antoine, non, c'est qui? Et puis ça les conduit plus loin. Ah, l'église, le phare, c'est quoi? Et puis ensuite le site, etc., etc. C'est pour ça, Alexis, il y a du boulot avec ton équipe, là. Je suis gentil à toi. Mais je sais que tu es pour, mais on sait qu'on ne sait pas tout faire. Même en direct, Alexis, en direct, il faut progresser. Il faut prier. Ah ben, vous voyez, les finances, c'est aussi pour ça. Ouais. Donc, voilà. On va se rencontrer après, donc, avec cette jeune fille, ou jeune dame, je ne sais pas, même, je ne connais pas. Donc, voilà, les âmes vont arriver comme ça. Le Seigneur va nous donner les âmes comme ça. On ne peut pas dire autrement. Hein. Les gens, les personnes viennent comme ça. Parce qu'il y a une révélation. Elle m'a dit, « Ah, vous êtes pasteur, oui. Je vais vous demander encore poser une question. Moi, je vous écoute, oui. Ah, je pense à mon baptême. Ah, j'ai tout de suite compris. Je pense à mon baptême. C'est quelqu'un qui veut démarrer avec Jésus. Amen. C'est fort, hein, fort. Voilà donc, sauver, former, il y aura la formation. Bientôt, venez nous voir. C'est quelque chose de très important de se former. Il y a d'autres ministères, etc. Les finances, il ne faut pas que ça vous bloque. Il y a des personnes qui vont vous aider. Il ne faut pas que les finances nous bloquent dans la formation. Donc, venez nous voir. C'est déjà demain, le premier week-end de mois de février. Donc, vous voyez, il y a déjà les projets. Il y a déjà une dynamique. Donc, la formation et la construction. Ben, la construction, ben, on va chercher les briques. Voilà, pour construire. Et aussi d'autres églises. Pas plus tard que samedi ici. Ben, quand je dis samedi ici, c'est hier matin. Nous avons rencontré un pasteur d'une autre église où il y a beaucoup de difficultés. Et puis, on était là avec eux, avec lui, à trois, donc. Et puis l'objectif, c'était donner, partager, encourager, le propulser, l'aider, lui montrer que tu n'es pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Et là, on programme déjà une réunion avec l'équipe des responsables de cette église-là. Vous voyez? Donc, la construction, on est là. L'œuvre de Dieu n'est pas juste le phare. dans 2 semaines, avec Thierry et Christiane, nous partons dans l'Est. Ce sera mon premier voyage après mon opération. Donc, je vais tester si mon corps va bien résister. C'est quand même 500 kilomètres. Et nous allons rencontrer les responsables des 3 églises. Nous allons construire un fonctionnement local comme nous fonctionnons ici, parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, grandisse. Amen. Voilà, donc vous voyez, c'est juste pour vous dire des choses. Dimanche prochain, on va vous annoncer pas mal de choses encore. Voilà, au cours de la prédication. Très bien. Donc n'oubliez pas non plus, voilà, vous voyez, il y a déjà des projets. Il y a une semaine de prière, c'est la prière universelle. On appelle ça la prière universelle. Cette semaine qui arrive là, donc de 8 au 15, je pense. Voilà, donc nous avons discuté, Alexis, lundi, et nous allons faire la réunion mercredi soir, comme d'habitude, avec des sujets que cette équipe qui prie, voilà, dans toute la France, donc le CNEF, c'est une alliance qui regroupe toutes les églises et toutes les fédérations, voilà. Donc, mercredi et vendredi, nous serons là présents. Je vous invite vraiment, 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 pour que vous soyez là, pour que nous puissions participer à ces courants de prière qui peuvent changer la situation, les circonstances. Amen. Voilà, donc mobilisez ceux qui ne sont pas là. Voilà, téléphonez. Il n'y a pas que nous qui devons vous mobiliser, mais chaque chrétien, chaque membre de l'Église, vous avez l'autorité, vous avez le droit d'inviter, d'encourager, de dire les uns aux autres, bon, écoute, enlève tes pantoufles mercredi soir et tu viens prier parce que tu as besoin et nous avons besoin. Voilà. Ne regarde pas ta télé pendant mercredi soir. Mercredi soir et vendredi soir. Venez prier, nous avons besoin. Changer de situation cette année, des circonstances. Amen. Voilà. Donc, pour clôturer encore quelques minutes, les enfants vont arriver. Nous, ce que nous avons besoin, donc, au niveau de la vision de l'Église, vous voyez, bien sûr, c'est un engagement, des progrès, des actions, des objectifs pour atteindre la vision, les buts. Eh bien, voilà, il faut des objectifs pour l'action. Il faut que l'Église soit active. Donc, nous allons voir tout ça dimanche prochain, puis dimanche après avec Alexis, etc. Ce que je voulais dire, c'est que pour que nous puissions atteindre aussi cette vision, nous avons besoin, depuis le début, quand on a commencé, juste à quelques personnes de l'Église, voilà, j'ai dit, Seigneur, je veux un fil conducteur. C'est vrai, la formation, je courais à droite, à gauche pour se former, etc., auprès des hommes de Dieu, dans différents séminaires, mais en même temps, j'avais besoin de choses personnelles avec Dieu. Et puis voilà, j'ai reçu cette parole quand j'étais tout jeune, l'onction, pour que l'Église puisse fonctionner. Et bien fonctionner, il faut l'onction. L'onction égale la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça se manifeste par différentes façons. C'est symbolisé par le feu, par la dynamique, par ouragan, par la pluie, etc. Là où il y a la puissance, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui déplace les situations. Donc, voilà, l'onction égale la présence de Dieu. Et ensuite, animation, savoir gérer les choses, savoir conduire les choses, savoir conduire un moment de louange quand il y a des inconvertis et quand il n'y a pas d'inconvertis, quand il y a les enfants et quand il n'y a pas d'enfants. Tous ces aspects sont tellement importants. Chaque minute d'un culte est importante. Les prédicateurs, la même chose. Quelquefois, il y a des anciens qui sont venus me voir pour me dire, Antoine, mais tu sais, voilà, on aimerait bien un peu plus d'enseignement, etc. Très bien, donc dimanche prochain, je vous apporte un enseignement. Et j'ai prêché, j'ai pris l'Ancien Testament, j'ai pris une histoire de David, etc. J'aime tellement ces choses-là. Et puis, à la fin du culte, j'ai vu quelques jeunes, quelques personnes qui commencent seulement à assister au culte. Et je dis, écoute Alfred, est-ce que tu as compris quelque chose? Moi, je suis toujours intéressé par ça. Et parmi vous, certaines personnes, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ma prédication? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous pensez de mes gestes? Moi, je suis comme ça. Hein. Là, tu m'as frustré. Ah bon, d'accord, donc il faut que je change là. Ça m'est arrivé, hein. C'est pas toujours parfait. Hein. Et là, c'est formidable ce que tu fais. Ce que vous faites, vous voyez. Et la personne m'a dit, j'ai rien compris. Très bien. Donc nos prédications pendant toute cette année-là, nous discutons entre nous de tout ça. Voilà, nous essayons d'être au centre pour ceux qui sont plus anciens, mais sans oublier Kessi. Mais tu symbolises d'autres personnes, hein, tu sais. Elle est là. Est-ce qu'elle a compris quelque chose? Je vais lui poser la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de mon intervention? Qu'est-ce que tu penses de la louange? Moi, je fais ça. Hein. Parce qu'on est là pour donner. On est là pour partager. Moi, je ne suis pas là pour me faire plaisir. Je peux rester chez moi pour me faire plaisir et ajouter des bûches dans mon cheminée pour que ça puisse brûler. Puis je vois les flammes. Amen. Voilà, donc, vous voyez, c'est tellement important tout ça. Donc, je vous ai déjà dit, donc l'onction, l'animation, les finances, je vous ai dit. D'accord. La conclusion, construisons avec Jésus. Soyons de vrais adorateurs. Et puis Dieu nous bénira. Ensuite, quelques minutes vont arriver. Je demande à toutes les personnes, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais ceux qui sont le candidat au baptême, venez nous voir. Hein, Alexis, c'est ce qu'on a discuté, venez nous voir. Si quelquefois, j'aimerais prendre mon baptême. Il y a des jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais il faut qu'on s'organise pour vous donner la formation, pour vous expliquer, pour faire la formation au niveau des baptêmes. Donc venez